Les séminaires du Collège de France.
Nous continuons avec le séminaire et avec les problèmes d'interprétation que posent les œuvres, que posent les textes, selon en particulier les différents genres de textes auxquels nous avons affaire. Et en particulier ici, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le genre de la lettre. Comment lire une lettre. Et pour ce faire, j'ai invité, peut-être la meilleure spécialiste en France de la lettre et du genre épistolaire, puisque Geneviève Haroche-Bouzinac a fondé un groupe de recherche sur précisément la lettre. Elle anime une magnifique revue sur l'art épistolaire qui s'appelle, c'est la revue Épistolaire, qui a de splendides numéros. Le dernier numéro que je vous recommande, on doit le trouver en librairie, et porte sur Colette, hein, c'est ça. Il est vraiment splendide. Si vous intéressez à Colette, il faut absolument avoir un numéro, mais il y a des numéros aussi sur Proust et sur d'autres auteurs, mais il y a aussi des réflexions très générales, plus générales sur les lettres. Geneviève Haroche-Bouzinac est professeur émérite de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université d'Orléans, et elle a une production éditoriale assez incroyable et faramineuse, et forcément, si vous vous intéressez à l'Ancien Régime, vous avez à un moment croisé à la littérature d'Ancien Régime, vous avez, ou même plus moderne, vous avez forcément croisé le nom de Geneviève Haroche-Bouzinac, qui a placé toutes ses recherches depuis sa thèse sur la lettre, puisque sa thèse portait sur la correspondance de jeunesse de Voltaire. Hein. Voltaire, dans ses lettres de jeunesse, la formation d'un épistolier au XVIIIe siècle. Mais plus récemment, la lettre a permis à Geneviève Haroche-Bouzinac de construire, au-delà d'autres éditions qu'elle a faites, de construire ce qu'on appelle des biographies, c'est-à-dire de construire, de reconstituer la vie des auteurs des lettres. Parce que la lettre, c'est le moyen d'accès, je pense, elle le dira tout à l'heure peut-être, c'est un moyen d'accès privilégié pour reconstruire la vie des personnes dans les siècles passés. Et donc, beaucoup plus récemment, Geneviève Haroche-Bouzinac a été l'autrice de plusieurs biographies très remarquées qui ont obtenu de quantité de prix. La première biographie, si je ne me trompe, c'était celle de Louise-Élisabeth Vigier-Lebrun, la peintre favorite de Marie-Antoinette, qui a reçu le prix Chateaubriand en 2011 et le Mellor Book Prize aussi aux États-Unis. Puis il y a eu une biographie d'Henriette Campan, la suivante et pédagogue, celle qui est devenue ensuite une grande pédagogue, suivante de Marie-Antoinette, La vie mouvementée d'Henriette Campan, parue chez Flammarion en 2017, a suivi, en changeant de siècle, une biographie de Louise de Villemorin, romancière bien connue, Louise de Villemorin, Une vie de bohème, parue là aussi chez Flammarion en 2019. Et enfin, tout récemment, c'était il y a 2 ans, 2023, une biographie de l'épistolière par excellence. Forcément, la spécialiste de l'épistolarité devait se confronter avec l'épistolière par excellence, Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, Une femme et son monde au grand siècle, pour livre, biographie, pour laquelle Geneviève Haroche-Bouzinac a reçu le prix de la biographie du journal Le Point et surtout le prix Goncourt de la biographie, ce qui n'est vraiment pas rien. De même, pour la biographie de Louise de Villemorin, elle avait reçu le grand prix de la biographie de l'Académie française. Là aussi, c'était aussi quelque chose. Donc, vous avez affaire ici à une grande biographe et quelqu'un qui utilise les lettres très pratiquement pour ses recherches. Et donc, le sujet de ce soir, c'est quelle lecture pour la lettre ? À toi, Geneviève.
Merci, William, pour cette introduction et merci aussi pour cette invitation. Donc, je vais vous parler pendant quelques minutes, quelques instants, de la lecture de la lettre. Et toute correspondance commence par l'ouverture d'une enveloppe. La correspondance de Jean de la Varande, un écrivain normand du début du siècle, aujourd'hui un peu oublié, offre une anecdote qui souligne l'importance de ce moment. Chaque jeudi, la Varande envoyait une lettre à son fils pensionnaire. Ces lettres constituaient un récit à épisodes qui se poursuivit pendant plusieurs années. Puis un jour, Lors d'une visite à l'école des Roches où séjournait le garçon, quelle ne fut pas la surprise du père de trouver un tas de ses lettres non décachetées. L'ouverture de la lettre est un acte élémentaire qui transforme le destinataire en lecteur. Ne pas ouvrir l'enveloppe, c'est se protéger, se mettre à l'abri de l'intrusion de l'autre dans son propre monde. Ne pas ouvrir une enveloppe, c'est opposer une fin de non-recevoir à une demande. Transformer le destinataire en lecteur ne va donc pas de soi. Une lettre est un écrit que nous envoyons à une personne absente pour lui faire savoir ce que nous lui dirions si nous étions en état de lui parler, rappelle le théoricien Vaumorière en 1690. Une fois la lettre ouverte, on ne peut plus ignorer la réalité qu'elle contient. Et ce qu'elle contient au premier chef, ce sont des nouvelles, autrement dit de l'information, quelle qu'en soit la nature, privée ou collective. On se rappelle l'aphorisme bien connu de Cioran, « Les livres sont des accidents, les lettres des événements », d'où leur souveraineté. Cioran souligne la dimension performative du message, c'est-à-dire sa capacité à faire basculer le réel. Cette dimension a été surexploitée dans la représentation de la lettre et notamment dans la peinture nordique. Mais ce sont des artistes français qui en tirent le maximum d'effets de dramatisation. J'en veux pour preuve l'un de ces tableaux représentant la mauvaise nouvelle. Le peintre saisit son sujet à un moment de basculement. Nous ignorons ce que la lectrice apprend, mais nous savons que la nouvelle est désolante. Dans la peinture de Jean-Baptiste Pierre, la nouvelle est renversante au sens propre du terme. Elle crée un désordre dans les vêtements, dans la tenue du corps. La protagoniste s'est placée à l'écart dans ce qui ressemble à une galerie où elle s'abandonne à son chagrin. Chez Marguerite Gérard, la lectrice représentée est également submergée par l'émotion. Elle est même décomposée. L'écritoire est ouvert et contient un papier froissé. Le chiot, observateur de la scène, est aux aguets, tandis qu'un miroir convexe, encadré de poutis, suggère la présence d'un tiers. S'agit-il d'une citation de Velázquez, du nombre de l'absent, celui dont il est peut-être question dans la lettre? Aucun indice n'informe sur la nature de l'annonce, deuil ou rupture. Dans les deux cas, la lecture de la lettre crée une émotion qui ne peut être dominée. Mais tous les messages n'apportent pas de mauvaises nouvelles. Au contraire, dans le contexte d'un échange familier, Cicéron définit la lettre comme la consolation des absents. Elle a le pouvoir de les rendre présents. J'éprouve un soulagement lorsque je te parle dans l'absence, ad leor cum loquor tecum absens. Ici, il s'agit là de la face claire de l'échange lorsque la correspondance est réussie. Cicéron évoque la force eutymique du message qui est un succès d'année, ce qui donne lieu à des topoi sur le papier, la calligraphie, forme tangible de la présence et qu'on appelle parfois le corps de la lettre. Mais enfin, l'absence est le plus grand des maux, selon la fable. Le pouvoir élémentaire de la lettre est de la tromper. Conversation, causerie, bavardage, radotage sont les métaphores qui illustrent la réussite de cette illusion. La lecture conditionne la bonne réponse. Et comme dans la conversation où les bons écoutants font les bons parlants, le destinataire idéal est avant tout un bon lecteur, ce qui est une denrée rare. Mais il existe aussi une face sombre lorsqu'il y a des turbulences dans la navigation. André Gide le déplore lorsqu'il reçoit, dans une lettre adressée à Paul Valéry en septembre 1891, lorsqu'il reçoit une lettre de Pierre Louis. Louis m'écrit des choses absurdes et charmantes, mais rien de ce que je lui demande. De sa vie, il n'a su, je crois, répondre à une lettre. La question de la qualité du lecteur est en jeu ici. Sans écoute, sans réponse article par article, unité minimale de l'information, l'échange se transforme en soliloque, ce qui est le pire des défauts épistolaires après le silence et qui fait plonger la lettre dans la solitude. Sont en difficulté les épistoliers qui ne font pas semblant d'y croire, qui ne font pas jouer cette illusion de présence. Et Franz Kafka se laisse déborder par ce qu'il appelle les fantômes, dans une citation bien connue, au terme d'une relation tourmentée, faite de rendez-vous ajournés. Dans les derniers messages de sa correspondance à Milena Jesinska, il conclut « Les lettres ne sont que tourments, elles ne proviennent que d'un tourment incurable. Elles sont dislocation des âmes plutôt que discours consolants. » Et il s'interroge « Comment a pu naître l'idée que les lettres donneraient aux hommes le moyen de communiquer ?» Le malentendu est dans le fruit, dans le contrat même qui régit l'échange, rien ne pourrait donc triompher de l'absence. Entre ces deux pôles, la clarté et l'ombre, toutes les configurations de lecture sont possibles. À partir de l'observation de quelques modulations de l'échange, des plus simples aux plus compliquées, je tenterai de voir comment la lecture met en jeu la frontière entre le public et le privé. Je conserve présent à l'esprit que cette frontière est variable selon les époques. Je n'oublie pas non plus que la lettre est un écrit étroitement lié au contexte historique et politique de sa production et à ses conditions d'acheminement. Cependant, quelle que soit la période envisagée, deux invariants constituent la forme, la signature ou encore souscription et l'adresse ou la destination. Donc je m'autoriserai de ces invariants pour confronter des exemples parfois issus de contextes historiquement éloignés. Et parmi les lecteurs de la lettre, je m'intéresserai aujourd'hui essentiellement à ceux qui sont situés dans l'orbite de l'épistolier et de son destinataire, tout simplement pour des raisons d'espace et de temps, et non à l'usage qu'aujourd'hui nous pourrions faire des correspondances du passé. Donc de multiples configurations de lecture sont envisagées par le scripteur pour capter son lecteur potentiel. En voici quatre que je vais tenter d'illustrer. Il s'agit à chaque fois de lecteurs qui sont désirés. Donc tous les commerces épistolaires ne sont pas voués à l'échec, surtout lorsque l'épistolier prépare lui-même la lecture de son message. Dans une lettre canonique, celle du 15 septembre 1670, relatant les fiançailles de Mademoiselle, que tout le monde connaît, hein, Madame de Sévigné conjugue avec brio la forme littéraire de l'énigme et une dramaturgie dans laquelle elle assigne un rôle à son lecteur. On en connaît l'annonce, « Monsieur de Lauzun épouse demain au Louvre, devine qui, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000, etc. » Cette lettre est dans toutes les mémoires. L'épistolière imagine les réactions de ses destinataires, ses cousins Coulanges, et place dans leur bouche des réponses à ces injonctions. « Vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous, et plus loin. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, et si vous dites que nous avons menti, que cela est bien fade à imaginer, nous trouverons que vous avez raison. » Un scénario, qui peut même connaître une suite, se met en place. Les lettres qui vous seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non. Une histoire à épisode en somme. Anticiper les réactions du lecteur, c'est tirer les fils de la relation épistolaire et rendre l'interlocuteur captif et passif. À l'autre extrémité de la chaîne, le récepteur donne à voir dans sa réponse l'ouverture du message et sa lecture. Il devient actif. Ce topos se développe plus ou moins en fonction de l'étroitesse du lien, et en voici une autre illustration qui se situe vers 1780. La comtesse Éléonore de Sabran est séparée de son correspondant, le chevalier de Boufflers, alors gouverneur du Sénégal. L'acheminement est aléatoire et les lettres arrivent par paquets. La comtesse en décrit la réception par étapes. Elle parcourt la lettre afin de savoir si elle ne contient pas de mauvaises nouvelles, puis elle cherche la formule finale, baromètre de la relation. C'est dans un troisième moment qu'elle peut soupeser chacun des articles du message. Voici ce qu'elle dit. J'examine l'adresse, je regarde chacune de tes lettres pour savoir si tu étais bien pressé en l'écrivant. À quoi tu pensais ? J'en viens au cachet et je vois que tu ne t'es pas servi du mien ni de ma devise. Cela me fait une sorte de peine. Je tremble, je n'ose le rompre. Je crains de troubler tout à coup le plaisir que je ressens par la vue de quelques mauvaises nouvelles. Le paquet ouvert, je commence par la dernière lettre, comme la date la plus proche, la date la plus fraîche, pardon. Je crois lire, mais je ne lis pas, tant je suis troublée. Chaque page est baisée séparément, mais je les lise avec la même peur et les mêmes précautions qu'on touche un rasoir ou quelque autre arme dont on craint la blessure. Il me faut plus de 24 heures pour savoir ce qu'elles contiennent. La réception mise en scène par Éléonore de Sabran associe lecture et relecture. Et il n'est pas rare que dans une correspondance suivie, l'épistolier marque une pause et dise « J'ai relu tes lettres ». Fragonard, peintre des nuances du sentiment, représente avec sa manière de faire trembler la lumière une jeune fille lisant une lettre. Par tradition, ce tableau est intitulé « La lettre ». Mais en réalité, il saisit l'instant d'une relecture délectable. Appuyé sur sa main droite, dans une attitude méditative, accoudé au tiroir d'une commode, la lectrice y a puisé une lettre. Le plaisir lui rosit les joues. Le ressouvenir fait partie de la topique épistolaire, car relire, c'est donner vie au passé. De même que le mémorialiste distingue le moi personnage du moi narrateur, l'épistolier relisant des lettres reçues peut réinterpréter une histoire de vie à deux plumes. La lectrice ne s'attache plus à une information qu'elle connaît déjà, mais à des formulations qui l'enchantent et à l'histoire d'une relation. J'emprunterai, pour décrire cette lecture dans la continuité, une formule à Alain Pagès qui note « Toute correspondance comporte une capacité narrative forte. Et c'est de cette narration que le relecteur ou la relectrice s'enchante. » Je voudrais évoquer maintenant ici un cas particulier de relecture dont je ne connais que deux exemples. Lorsque le scripteur se confond avec le destinataire, la lecture se fait en vase clos. Paul-Jean Toulet, dont il a été déjà ici question plusieurs fois, expédie à sa propre adresse des missives afin de les trouver au retour dans sa boîte aux lettres. Une façon de voyager les mains vides en confiant à la poste ses impressions. À l'exorde de cette correspondance, il note « Vous trouverez cela singulier, mon cher Paul, ridicule peut-être, que moi-même je vous écrive. » Le poète porte à sa perfection le conseil de Diderot qui suggère d'avoir une âme contournable en soi-même. La dimension ludique de l'apostrophe qui va du « cher monsieur Toulet » à « cher maître et ami » ou « cher et grand poète » passe par le prudent « mon cher ami » si le mot n'est pas trop familier ou à un simple « mon cher Paul » et sa variante « cher Paul-Jean ». « Mon cher Toulet » est plus viril. Enfin, l'affectueuse hypocoristique « petit Paul » est toujours préférable au condescendant « mon bon ami ». Hélas, malgré les déclarations de fidélité, le destinataire reste cruellement muet. Pensez-vous que ce mode de correspondance... Ah, pardon, j'ai l'impression qu'il manque une image. Bon, c'est pas grave. Pensez-vous que ce mode de correspondance puisse durer un long temps et que je vous écrirai toujours sans que jamais vous pensiez à me répondre ? Le romancier de mon ami Nan a pratiqué cette correspondance égotiste de manière irrégulière durant 11 années. Peu descriptive, ces lettres de voyage valent comme des états de l'âme, lecture solipsiste de soi-même comme un autre. Si nous sommes informés de la façon dont il s'adresse à lui-même, nous ne savons que peu de choses sur l'usage que Toulet a fait de ses lettres, si ce n'est qu'il les a conservées dans une boîte de laque rouge que pouvaient voir ses visiteurs. Ces formes de lecture simple restent à l'intérieur du duo épistolaire. Mais que se passe-t-il lorsque des tiers sont impliqués dans une superposition de destinataires ? dans une lettre bien connue adressée à son amie Sophie Volant, son amie et amante Sophie Volant, Diderot envisage une lecture dans un temps différé par une seconde destinataire non encore en mesure de le dire. Voici ce qu'il dit. « Ô ma Sophie, combien de bons moments je vous dois, combien je vous en devrais encore. Ô Angélique, ma chère enfant, je te parle ici et tu ne m'entends pas, mais si tu lis jamais ces mots quand je ne serai plus, car tu me survivras, tu verras que je m'occupais de toi et que je te disais dans un temps où j'ignorais quel sort tu me préparais, qu'il dépendrait de toi de me faire mourir de plaisir ou de peine. » À travers Sophie, Diderot s'adresse à sa fille Angélique, âgée de 7 ans, la future Madame de Vandeul, à l'éducation de laquelle il apporte tous ses soins. Pariant sur la conservation de ses lettres, il envisage une lecture qui laissera l'image d'un père aimant dans un temps sous lequel il n'aura plus de prise. Cet appel à une postérité clairement identifiée teinte le message d'un lyrisme parfois remarqué dans la correspondance de Diderot. Donc Angélique est une lectrice invitée dans l'échange. Mais que se passe-t-il lorsque des lecteurs imprévus font irruption ? Donc des lecteurs indésirables, eh bien je vais essayer d'évoquer quatre cas différents mettant en valeur la présence de ces lecteurs indésirables. Les manuels épistolaires insistent sur la possibilité d'effraction du courrier privé. Il faut avoir cette retenue de n'écrire point légèrement aucune chose qui puisse nous nuire ou à nos amis si elle venait à être lue. Dans cette cour de justice qu'est le monde, la lettre peut devenir un témoin qui dépose pour ou contre son auteur et les recueils regorgent de conseils, de prudence destinés aux débutants. Il n'est pas toujours à propos de confier son secret à un papier qui peut se perdre et tomber en mains étrangères. Madame de Sévigné, qui n'a que mépris pour... Madame de Sévigné, qui n'a que mépris pour le style, ce qu'elle appelle le style à 5 sols de ses anthologies vendues sur le Pont Neuf, prend conscience du risque encouru à s'entretenir innocemment avec un homme dont la réputation est celle d'un séducteur, le surintendant des finances Nicolas Fouquet. Alors je rappelle le contexte. Après l'arrestation du surintendant, Nicolas Fouquet, son rival Jean-Baptiste Colbert a fait main basse sur un coffret de lettres qui se trouvait dans la demeure de Fouquet. « On vit, écrit la mémorialiste Madame de Motteville, qu'il y avait des femmes et des filles qui passaient pour sages et honnêtes et qui ne l'étaient pas. » Troublée d'apprendre que certaines de ces lettres figurent dans la fameuse boîte, Madame de Sévigné appelle à l'aide le grammairien Ménage, son ami. « Je pense que vous savez le déplaisir que j'ai eu d'avoir été trouvée dans le nombre de celles qui lui ont écrit. Il est vrai que ce n'était ni la galanterie, ni l'intérêt qui m'avait obligée à avoir un commerce avec lui. L'on voit clairement que ce n'était que pour les affaires de Monsieur de la Trousse. » Soudainement, l'épistolière prend conscience de l'ambiguïté de son badinage épistolaire. « J'ai été fort touchée de voir qui les avait mises dans la cassette de ses poulets et de me voir nommée parmi celles qui n'ont pas eu des sentiments aussi purs que moi. » Fouquet trouvait-il dans ses messages des allusions qui ne pouvaient être compréhensibles que par lui ? N'est-ce pas l'interprétation de ces allusions que la jeune veuve pouvait craindre ? N'y aurait-il pas eu dans ses liasses des billets comparables à ceux discrètement audacieux qu'elle écrivait parfois à son cousin Lucien Rabutin ? Entre l'amitié et l'amour, il y a la place pour la tendresse. C'est ce qu'exprime une chanson transcrite par son ami Corbinelli. L'on ne saurait sans un péril extrême vous voir souvent et se plaire avec vous. De la bonne amitié, sachez que d'ordinaire, l'on n'a jusqu'à l'amour qu'un pas à faire. Quoi qu'il en soit, le ton de ces lettres plein d'esprit a plu au surintendant et il a fallu que ces pauvres lettres, pleines du mariage de M. de la Trousse, se trouvassent placées si mystérieusement. C'est le classement des lettres qui pose problème. Alors, je crois que je vais revenir. Voilà. Ce qui pose problème. Dans les jours qui suivent, Chapelain réconforte l'imprudente et il lui apprend que le roi et Anne d'Autriche se sont fait apporter la cassette. Et ils ont affirmé qu'aucune des lettres de la marquise n'est sujette à interprétation. Le ministre Letellier confirme que les conclusions du monarque sont catégoriques. Les lettres de la marquise sont celles d'une amie qui avait bien de l'esprit et qu'elle avait bien plus réjoui le roi que les douceurs fades des autres lettres, mais que le surintendant avait mal à propos mêlé l'amitié avec l'amour. Donc il est plaisant de constater que la première explication de texte de quelques billets de Madame de Sévigné a eu lieu dans la famille royale. Un effet de faux jour, une divulgation imprévue et une réputation bascule. Lorsque le malentendu se glisse entre les protagonistes, c'est presque toujours la compréhension de la frontière entre le public et le privé qui est en jeu, quelles que soient les limites de ces deux sphères. En voici un autre cas d'espèce qui nous ramène à Cicéron. Cicéron a confié à Antoine une opinion. Cette opinion concernait le consentement de Cicéron au rappel d'un banni, Sextus Claudius. Bon. Or, ce dernier, Antoine, a fait état de cette confidence dans un discours public. Cicéron reproche alors à Antoine d'avoir donné lecture d'une lettre nommément adressée et sans autorisation. Il fait de cette trahison la pierre de touche d'une diatribe dans la seconde philippique. De plus, il a lu publiquement une lettre qu'il prétendait que je lui avais adressée, étranger qu'il est au savoir-vivre et aux règles de la vie sociale. Car a-t-on jamais vu un homme tant soit peu initié aux usages des honnêtes gens prendre prétexte d'un mécontentement pour rendre public et lire devant tous une lettre reçue d'un ami? N'est-ce pas supprimer de la vie l'esprit de société, supprimer toute conversation entre amis séparés, colloquia amicorum absentium, c'est exactement la définition de la lettre, que de plaisanteries qui sont de mise dans la correspondance paraîtraient déplacées, inepta, si on les rendait public. Donc même lorsque le passage incriminé ne porte pas explicitement le signe du tibi soli, à toi seul, Cicéron étant à toute lettre familière l'interdiction de sa divulgation hors du couple épistolier-destinataire. Donner lecture d'un passage écrit dans un cadre amical équivaut à une violation du pacte de confiance implicite. Mais la trahison ne vient pas toujours du destinataire. Que faire lorsque des censeurs menacent l'échange? La notion d'inviolabilité des correspondances est une notion juridiquement tardive et souvent remise en cause. Dans toutes les situations extrêmes, cette sécurité n'est pas garantie et un lecteur indésirable peut s'immiscer dans l'échange. Sous l'Ancien Régime, les fonctionnaires de la douane des lettres sont actifs. Et durant la période de la terreur, les correspondances des suspects sont surveillées. Le poète Antoine Roucher, emprisonné à Saint-Lazare en 1794, est inculpé de modérantisme. Il entretient avec sa fille Eulalie et son entourage une correspondance. Les lettres transitent tantôt dans des objets à double fond, par exemple des marmites, dans lesquels on met la nourriture à double fond, tantôt par la voie officielle. Roucher sait que ces lettres sont visées par le concierge qui en transmet certaines au comité de sûreté générale. L'épistolier anticipe donc sur quatre possibilités de lecture. Celle de sa destinataire explicite, Eulalie, celle de destinataire implicite, les censeurs, et enfin deux autres lectures dans un temps différé, celle de son jeune fils Émile et celle de la postérité. À travers des sujets anodins, botanique, lecture, le prisonnier donne à sa fille des conseils dans un message qui devient un miroir moral, c'est-à-dire un modèle de vie. Toujours en attendant, regarde-toi passer, c'est le plus sûr moyen de réformer son allure dans ses défauts, lui dit-il. Puis, dans une stratégie défensive qui fait un détour par la généralisation, il s'adresse au juge. Il est dur de se voir emprisonné comme suspect et même anti-civique quand on a appelé de tous ses voeux et servi de toutes ses facultés la régénération de son pays par la liberté. Ce disciple de Rousseau fait un rêve éveillé de transparence. Si les juges pouvaient lire dans les cœurs, s'il lui était possible de se dévoiler en intention. Ils ne sauront jamais ce qu'ils vont nous juger, tout ce qu'il y a eu de sincérité, de désir, de pureté d'intention pour l'établissement de la liberté dans le cœur de celui qu'on a calomnié du titre odieux d'homme incivique. Donc cette apologie inscrit la lettre dans une dimension testamentaire. Laisser une image de soi dont la postérité n'aurait pas à rougir. Enfin, après avoir trouvé l'apaisement dans la douceur des larmes qui le régénèrent, le prisonnier charge Eulalie du message essentiel qu'il souhaite transmettre à son fils Émile, celui de la possibilité du bonheur. Il faut qu'il voie que les méchants n'ont pas le pouvoir de rendre malheureux l'homme de bien et que nous dépendons de nous-mêmes bien plus que d'autrui. Plutôt que d'adresser directement un factum au tribunal, Rouchet se sert de la lettre à court terme comme d'une courroie de transmission entre lui-même et les censeurs, et à plus long terme comme d'un testament d'honneur patriotique. Alors quel sera le destin de ces lettres? Elles seront mises en ordre par ses soins, placées dans une enveloppe avec le titre « Consolation de ma captivité » et confiées à un compagnon de prison. 3 années seulement après son exécution, c'est-à-dire en 1797, un recueil de sa correspondance portant ce même titre, « Consolation de ma captivité », sera publié par les soins de sa famille. Il n'est pas indifférent de rappeler que Rouchet a été le premier à publier les 4 lettres à M. de Malesherbes, noyau des confessions, de ce Rousseau qu'il admire, et qu'il est ainsi familier de la transition qui peut s'opérer entre lettres et œuvres littéraires. Donc avant de clore cet itinéraire, j'aimerais revenir à mon point de départ, la présence ou l'absence de l'enveloppe. La présence ou l'absence de l'enveloppe se rempart de papier qui protège des indiscrets. La lettre qui circule sans enveloppe, la carte postale, fait face à 2 contraintes. D'une part, elle dispose de peu d'espace. Le message réduit à l'essentiel limite l'anecdotique. D'autre part, à divers stades de son acheminement, elle peut être lue par des regards extérieurs. Le texte repose donc sur la connivence et l'implicite. Grâce à la carte postale, nous passons du malentendu au sous-entendu. Pour ces raisons, ce rectangle de carton a intéressé, entre autres lecteurs, Jacques Derrida, qui y voyait l'essence même du secret. Quelque chose qui circule à découvert, mais qui est défendu par l'allusion, ce référent extérieur non accessible aux tiers. Elles sont, écrit-il, absolument indéchiffrables. Ce que j'aime dans la carte postale, c'est que même sous enveloppe, c'est fait pour circuler comme une lettre ouverte, mais illisible. Avec la carte postale, l'épistolier sait que le tiers est là, facteur, concierge, commis indésirable. Ce regard extérieur rend sensible une ambiguïté, une jouissance inattendue chez les épistoliers. Crois-tu qu'il y a des tables d'écoute, qu'on ouvre nos lettres? Je ne sais pas si cette hypothèse me terrifie ou si j'en ai besoin. L'écriture de la carte postale pose la question. Le regard d'un tiers donne-t-il une jouissance supplémentaire à ceux qui partagent un secret? Le plaisir enfantin d'être caché ou celui d'avoir peur. Bon. Maintenant, quelques mots de conclusion pour achever ce parcours. On emploie fréquemment la métaphore du kaléidoscope pour évoquer la capacité qu'ont les lettres à se jouer des situations d'énonciation. Ce cliché, car c'en est devenu un, a le mérite de souligner la labilité de la forme. Il confirme la définition produite par Erasme d'une forme qui varie à l'infini à l'intérieur de ses propres limites, une chose si diverse et qui varie presque à l'infini. Le lecteur pense donc avoir le droit de se servir, comme bon lui semble, de ce texte à usage multiple qui n'est pas protégé par sa publication. L'épistolier, contrairement à ses confrères gens de lettres, n'est pas un auteur. Il ne fait pas autorité. La lettre est donc un texte ouvert à tous les vents. C'est ce qui fait sa richesse. La considérer, selon la suggestion de Jacques Derrida, comme la matrice de toute littérature, comme une forme qui n'est pas un genre, mais tous les genres, la littérature même, et à condition toutefois de ne pas faire de cette définition la marque d'un négligé de l'écriture, n'est pas céder à la facilité. Et j'aimerais clore cette présentation sous le signe d'un poète impeccable, aujourd'hui disparu, qui s'appelle Pierre Lartigue. Et ce que ce poème nostalgique souligne, c'est le caractère précieux et fragile de la lettre. Cette poésie modeste et suggestive montre à quel point exister dans un monde sans lettres serait douloureux, un monde d'où serait disparu l'essentiel de nos vies. Dans un monde abandonné par les facteurs, t'imagines pas ? La panique de moi s'empare, j'en oublie l'heure des repas. Ne plus pouvoir suivre les pas en pensée de qui se sépare, je monte sans cesse au rempart. Savoir qui meurt, savoir qui pas. Il n'y a plus de faire part que de faux jours et de faux pas. On est coupé de la plupart. Caroline est-elle à l'espace ? Hubert toujours à mon repas ? Peut-être il neige quelque part. Qui sait si tu ne m'oublies pas ? Où sont les bons baisers de spa ? Silencieux comme un guépard et morne comme une pampa, dans un monde abandonné par les facteurs, j'imagine pas. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.